Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne. pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Au sommaire de ce journal, le projet d'accord du JCPOA est prêt à être signé, a déclaré la diplomatie française. L'OPEP rejette les rumeurs de baisse des exportations de pétrole iranien. Et puis des militants des pays d'Amérique latine organisent des événements pour marquer le 74e anniversaire de la journée palestinienne de la Nakba ou journée de la catastrophe. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé que le projet d'accord de la relance au JCPOA, accord nucléaire de 2015, est prêt il y a plus de deux mois et les négociateurs ont quitté Vienne pour cette raison. Le projet d'accord d'adhésion au JCPOA est prêt depuis plus de deux mois et les négociateurs ont quitté Vienne pour cette même raison parce qu'ils étaient convaincus que l'accord serait conclu comme dès que possible, a ajouté le diplomate français. Le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères a déclaré « Nous exhortons les parties à adopter une approche responsable et à prendre immédiatement les décisions nécessaires pour conclure cet accord. C'est une erreur grave et dangereuse si l'on pense que cette question peut rester indéfiniment sur la table. » La plupart des pays participants au pourparlers de Vienne souhaitent que les négociations se concluent plus rapidement, mais la conclusion d'un accord final attend les décisions politiques américaines sur quelques questions clés restantes. Le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian a déclaré qu'un bon accord crédible est disponible si les États-Unis prennent une décision politique et respectent leurs engagements. L'OPEP rejette les rumeurs de baisse des exportations de pétrole iranien. Selon les dernières statistiques publiées par l'OPEP, la production pétrolière iranienne a augmenté le mois dernier de 36 000 barils. En raison de la consommation constante de pétrole dans le pays, l'Iran n'a non seulement pas connu de baisse de ses exportations au cours de cette période, mais a également assisté à une augmentation de ses exportations, indique l'organisation. Le marché le plus important pour les exportations de pétrole iranien est la Chine. Le géant économique asiatique reste le plus grand marché d'exportation de pétrole iranien à la fois après la levée des sanctions et lorsque les sanctions unilatérales trumpiennes ont été réimposées sur l'économie iranienne. Même en pleine pression maximale de l'administration Trump aux États-Unis, qui cherchait à réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, la Chine a continué à l'acheter en contournant les sanctions et au risque de la saisie de ses pétroliers. les allégations selon lesquelles les exportations du pétrole iranien vers la Chine diminuent en raison de l'augmentation des exportations russes vers le géant asiatique est complètement fausse, affirme l'OPEP. Crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, renforcement de la coopération économique irano-cubaine. Le ministre iranien des Affaires économiques et des Finances a rencontré mardi le vice-premier ministre et envoyé spécial du président de Cuba et les deux parties ont convenu d'accroître la coopération économique entre les deux pays. Évoquant l'histoire de la coopération entre les deux pays dans les domaines de la santé et de l'agriculture, le ministre iranien, tout en soulignant la nécessité d'améliorer les relations économiques bilatérales, a émis l'espoir de voir la prise de mesures plus sérieuses pour développer la coopération et mettre en œuvre les accords. Expliquant le plan de développement économique de Cuba et les domaines prioritaires de développement économique, le vice-premier ministre cubain Ricardo Cabrissas Ruiz a pour sa part souligné les facteurs négatifs affectant l'économie de son pays tels que le blocus économique et les graves impacts du Covid-19. À cela s'ajoutent deux autres facteurs, à savoir le changement climatique et la guerre en Ukraine, qui ont affecté négativement l'économie cubaine, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire. Le Croissant Rouge iranien, l'une des cinq premières associations au monde. Le secrétaire général de la Société du Croissant Rouge de la République islamique d'Iran a déclaré: selon les responsables internationaux de la Croix-Rouge, la Société du Croissant Rouge de la République islamique d'Iran est l'une des cinq premières associations du monde. Yaroub Soleimani, s'exprimant mardi 17 mai lors d'une réunion sur un siècle de service volontier du Croissant Rouge iranien tenu dans la ville de Mashhad au nord-est, a ajouté que le Croissant Rouge iranien est l'incarnation du dévouement et de l'esprit de sacrifice dont il n'a cessé même aux jours les plus difficiles de faire preuve. Présent aussi au rendez-vous, le gouverneur du Khorasan Razavi a pour sa part déclaré « Notre pays est sujet aux incidents et aux catastrophes naturelles. La raison et la logique dictent que nous soyons prêts à l'avance pour répondre à toute situation. » Le Pentagone a prétendu qu'une enquête sur une frappe de 2019 par les forces américaines en Syrie, qui aurait tué de nombreux civils, n'a trouvé aucune preuve de violation de la politique ou négligence gratuite. L'enquête s'est concentrée sur une frappe aérienne des forces US sur un bastion présumé daéchiste en Syrie. L'enquête a été lancée l'année dernière après que le New York Times a rapporté que l'armée américaine avait dissimulé des dizaines de morts parmi les civils. Le rapport du Times a indiqué que 70 personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, avaient été tuées, ajoutant que cela pourrait constituer un crime de guerre. L'enquête de l'armée américaine, cependant, rejette cette conclusion. Enfin, des militants des pays d'Amérique latine organisent des événements pour marquer le 74e anniversaire de la journée palestinienne de la Nakba ou journée de la catastrophe. Les habitants du Pérou, du Panama, du Chili et de l'Argentine ont organisé des rassemblements et des marches en solidarité avec le peuple palestinien. La capitale vénézuélienne, Caracas, a rendu hommage à la journaliste palestinienne assassinée Shirin Abu Akleh en exposant sa photo sur le bâtiment du ministère du Logement et du Développement Urbain. La journaliste Al Jazeera a été abattue par des soldats israéliens la semaine dernière alors qu'il couvrait un raid sur la ville palestinienne de Jenin. La mort d'Abu Akleh a déclenché une condamnation internationale des crimes perpétrés par le régime de Tel Aviv. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Gaz naturel liquéfié, l'Iran produit les géants réservoirs cryogéniques, pour exporter le GNL. Un navire bétanier quitte le port de Darwin, en Australie. L'Iran produit désormais les géants réservoirs cryogéniques pour exporter le GNL. Suite à la hausse des prix dans le marché mondial du gaz, l'Iran se lance dans la technologie avancée de la production des réservoirs cryogéniques pour exporter du gaz naturel liquéfié. La production des géants réservoirs cryogéniques qui s'installent sur les grands navires méthaniers est nécessaire pour un pays qui veut se lancer dans l'exportation du gaz naturel liquéfié. Actuellement, les États-Unis, le Qatar et l'Australie sont les grands exportateurs du GNL. Suite aux conséquences de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées contre l'importation du gaz russe dans les pays européens, l'absence des gazoducs disponibles, la demande mondiale pour le gaz naturel liquéfié s'élève de jour en jour. Alors, l'acquisition de la technologie de la production des grands réservoirs de la transportation du GNL est très décisive pour l'Iran. Le deuxième pays du monde, après la Russie, dans le domaine des gisements gaziers. La Russie fournit actuellement 40% du gaz que l'Union européenne importe. L'Iran est le plus grand producteur des réservoirs d'oxygène liquide, d'azote liquide, de dioxyde de carbone liquide et d'équipements cryogéniques en Asie occidentale avec la capacité de concevoir et de fabriquer conformément aux normes internationales. La production, le transport du GNL est un procès technique très avancé et nécessite des équipements et des réservoirs ultra-modernes. Grâce aux efforts des sociétés du secteur privé, l'Iran est désormais dans le cube des pays qui ont atteint ces technologies avancées. Le gaz naturel liquéfié se compose principalement de méthane, plus de 90%, et de petites quantités d'éthane, de propane, de butane et d'azote. Le GNL produit, qui est stocké à pression atmosphérique, soit volumes élevés, ou sous pression, volumes faibles, à une température de moins 162 centigrades, est un liquide incolore, inodore et non toxique, dont le volume dû à la liquéfaction est 600 fois inférieur à gaz normal dans des conditions normales. Les impuretés du gaz naturel, y compris l'azote, le mercure, l'humidité, les gaz acides et les hydrocarbures lourds doivent être éliminés avant la liquéfaction pour éviter les problèmes opérationnels tels que le gel pendant la production, le stockage et le transport du GNL. Les unités de production du GNL sont divisées en deux grandes catégories à grande échelle d'une capacité supérieure à 1,5 million de tonnes par an et à petite échelle d'une capacité inférieure à 1,5 million de tonnes par an. Le produit des grandes unités est généralement transporté par des navires géants vers les destinations de consommation et après évaporation, il atteint des centrales électriques ou est injecté dans les lignes de transport de gaz national. De petites unités de GNL sont également expédiées par des pétroliers, des petits navires et des flottes ferroviaires vers des destinations telles que des stations au réseau, des stations de ravitaillement en GNL, à terre et en mer, et des unités de GNC, gaz naturel comprimé. Avantage du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié est le combustible fossile le plus propre, qui, dans de nombreux pays, est économiquement et écologiquement préféré aux combustibles liquides tels que le diesel et le mazout. Ce produit a une sécurité beaucoup plus élevée par rapport au gaz naturel comprimé GNC en raison des conditions de stockage.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. L'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué jeudi une visite importante d'une seule journée à Téhéran, où il a été reçu par le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Lors de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a exhorté les pays arabes à prendre des actions politiques concrètes et sans équivoque contre les crimes de l'entité israélienne. L'Ayatollah Khamenei a estimé que certains pays européens soutenaient davantage les Palestiniens que les pays arabes. Il a critiqué l'inaction, en effet, des pays arabes et mis en garde contre la normalisation avec le régime de Tel Aviv. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons particulièrement nous pencher sur cette visite de l'émir du Qatar qui, selon de nombreux analystes, marque un tournant dans les relations bilatérales, mais aussi et surtout le discours du leader de la révolution islamique, les déclarations de l'Ayatollah Khamenei appelant les pays arabes à s'unir pour faire face aux crimes et aux agressions de l'entité d'occupation israélienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a reçu jeudi 12 mai dans l'après-midi l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, et la délégation qatari en visite à Téhéran. Au cours de cette rencontre, le leader de la révolution islamique a insisté sur l'impératif du développement des relations bilatérales dans les domaines politiques et économiques, affirmant que la solution des problèmes de la région passerait par un dialogue élargi sans qu'il y ait d'ingérence de la part de puissances extra-régionales. Évoquant l'intensification des crimes commis par le régime sioniste contre la nation palestinienne, l'honorable Ayatollah Khamenei a déclaré « La République islamique d'Iran s'attend à ce que le monde arabe entame une action politique concrète face aux crimes flagrants des sionistes. » En approuvant les déclarations de l'émir du Qatar pour condamner les crimes commis par le régime sioniste, le leader de la révolution islamique a affirmé que les injustices et les oppressions que les sionistes ont infligées pendant de longues décennies aux Palestiniens ont imposé aux nations arabes et musulmanes des préjudices et des amertumes. Vu cette triste réalité, la République islamique d'Iran s'attend à ce que le monde arabe entame une action politique concrète face aux crimes flagrants des sionistes, a déclaré l'honorable Ayatollah Khamenei. En confirmant les propos de l'émir du Qatar sur les événements de l'année dernière dans le quartier de Sheikh Jarrah à Qods, le leader de la révolution islamique a affirmé que certains gouvernements arabes n'avaient accordé aux Palestiniens de la ville occupée de Qods qu'un soutien infime, même en comparaison avec certains États européens. Ces gouvernements n'ont adopté aucune position efficace et poursuivent aujourd'hui sur la même voie, a ajouté l'honorable Ayatollah Khamenei. Si les gouvernements arabes se résignent à une telle approche, soit par la crainte, soit par l'espoir d'un quelconque avantage de la part du régime sioniste, ils devront savoir qu'aujourd'hui, le régime d'occupation dans l'État où il est n'inspire ni crainte ni espoir, a affirmé le leader de la révolution islamique. Selon l'honorable Ayatollah Khamenei, la solution des problèmes de la région ne serait possible que par les pays de la région et par un dialogue élargi. Les affaires de la Syrie et du Yémen peuvent être réglées par le dialogue, mais ce dialogue ne doit pas s'établir par la base de rapports de force Or, les États-Unis et leurs alliés s'appuient sur les leviers militaires et financiers pour dicter leur volonté aux autres partis, a souligné le leader de la révolution islamique.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Toulouse M. le professeur Pierre Dortguet, philosophe et politologue, et depuis Paris, M. Garoldo Colman, analyste politique. M. Colman, bonjour, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, comme vous savez, jeudi, alors lors d'une visite d'une journée, alors à Téhéran, l'émir du Qatar a été reçu par le leader de la révolution islamique. Dans quelle mesure cette visite pourrait marquer un tournant dans le contexte actuel des évolutions de la région, sur fond, bien sûr, d'intensification des crimes et des agressions du régime israélien contre les Palestiniens?
Moi, je pense que c'est une visite très importante, surtout dans le contexte géopolitique international, vu le fait que les accords de Vienne sont encore sur la table, pour ainsi dire, et qu'il faut aussi que l'Iran et que le Qatar travaillent ensemble pour leurs intérêts communs. Ça, c'est un point très important. Un danger, bien évidemment, pour l'Iran, ce rapprochement politique entre l'Iran et Qatar présenterait peut-être un danger pour l'Iran, vu le fait que Qatar et l'entité sioniste sont très très proches. Donc ça pourrait aussi poser des problèmes de point de vue de renseignement, etc. Néanmoins, les visites sont très importantes. Il faut rappeler que quand l'Arabie saoudite a fait un embargo contre Qatar en 2017, l'Iran était un facteur clé pour la sortie du Qatar de cette crise. Et donc les Qataris sont délirants pendant cet événement. Et en fait, c'est dans l'intérêt commun, vu le contexte de puissance pétrolière et aussi dans le contexte actuel où l'Europe, où l'OTAN fait les guerres contre la Russie, les guerres par procuration en Ukraine, et qu'il y a une crise d'énergie en Europe majeure et que maintenant les Allemands essayent d'amener plus de gaz de Qatar et les Européens peut-être pourraient être amenés aussi à réfléchir sur leur avenir énergétique vu le fait que maintenant les prix sont en train de monter d'une façon très dramatique et qu'il faut finalement de toute façon conclure la paix avec l'Iran. Je pense qu'il faut prendre ça tout en compte pour comprendre l'importance de cette visite.
Merci pour ces précisions, M. Colman. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Toulouse M. le professeur Pierre Dortguet, philosophe et politologue. M. le professeur, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je voudrais demander mes salutations à tous vos auditeurs et à votre invité que je viens d'écouter.
M. le professeur, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je vous entends très bien, oui. Est-ce que vous m'entendez là?
Très bien.
Allô?
Oui. Monsieur le professeur, Monsieur Colman a souligné l'importance de la visite de l'émir du Qatar et les différents aspects et dimensions, en effet, de ce rapprochement. D'abord, quel sera l'impact de cette visite, de ce rapprochement plutôt, sur la donne régionale et internationale? Et puis, et surtout, en ce qui concerne les développements, les récents développements dans les territoires palestiniens, il paraît que là aussi, en effet, le leader de la révolution islamique a lancé, en effet, adressé un sérieux avertissement aux pays qui cherchent à normaliser avec l'entité sioniste, prévenant que, justement, alors désormais, le régime sioniste n'inspirait ni crainte, ni espoir.
C'est très juste, évidemment. Je crois que l'intérêt, disons, l'originalité, si je puis me permettre de dire, des propos du guide suprême, viennent de ce qu'il représente au Qatar et aux autres dirigeants arabes qui sont tentés d'accord avec l'entité sioniste et autres, qu'il y a non seulement une communauté d'intérêts entre les États, mais qu'il y a aussi une communauté de destin. Et que s'il y a une crise, et disons plus qu'une crise, s'il y a véritablement un affaissement de la cause palestinienne, ceci va, affecter l'ensemble de la société arabe, en particulier musulmane, bien sûr, les chrétiennes d'Orient. C'est-à-dire qu'il y a une solidarité entre les membres entre les pays. Et que les intérêts économiques, on peut dire intérêts égoïstes, qui sont humains, bien sûr, doivent passer en second lieu, voyez-vous. Or, ce n'était aucunement le cas jusqu'à présent. Chacun tirait, si je puis dire, son épingle du jeu. Évidemment, sur le plan de la guerre au Yémen, par exemple, nous pensons que cette entrevue portera ses fruits, car si cela pouvait adoucir, disons, la cruauté du sort infligé aux Yéménites, évidemment, on ne peut refuser. Mais ce rapprochement, voyez-vous, n'est pas un rapprochement entre le Qatar et l'Iran, le Qatar et notre pays, le Qatar et la cause palestinienne, par exemple, n'est pas du tout une affaire de circonstances. C'est une nécessité. Et je dirais une dernière chose, c'est que, pour conclure, c'est que la réflexion que nous saluons, comme Européens, bien sûr, c'est celle qui est de l'Ayatollah Khamenei qui dit que beaucoup de pays européens ont fait plus pour la cause palestinienne que n'ont fait des États arabes. Ça, je le reconnais ici, je ne peux pas juger pour la France, mais je peux juger en particulier pour la Suède, pour l'Allemagne, etc. C'est vrai que l'histoire jugera, mais ceux qui visitent ces pays savent comment les Palestiniens sont accueillis, comment, ils peuvent maintenir leur existence nationale à l'intérieur de la communauté, voyez-vous. Disons qu'on dit l'histoire jugera. Oui, je crois qu'elle a déjà jugé, mais il faut, disons, aussi comprendre pour les États arabes, quelle que soit leur fortune, voyez-vous, quel que soit leur argent, que ceci n'est pas suffisant. Et il y a un destin populaire, et ça, ce destin national, il échappe à l'économie. Il est indépendant de l'économie. Il est une question morale. Il est une question, disons, plus élevée que les questions, disons, matérielles. Je crois que ça, c'est une conscience qui est très difficile, bien sûr, de faire admettre aux gens du Golfe. Et c'est cependant avec cette conscience trop matérielle que les Anglais, les Américains, et d'autres d'ailleurs que les Anglais et les Américains, je les nomme, ont créé une clientèle en Orient qui est néfaste à l'ensemble des intérêts de l'Orient.
Merci pour ces éclairages, monsieur le professeur. Restez avec nous. Monsieur Coleman, alors, la visite de l'émir du Qatar à Téhéran est intervenue au lendemain du déplacement secrétaire, en effet, de l'Union européenne pour l'action extérieure, le négociateur, le coordinateur de l'Union européenne dans les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire. Est-ce que là, vous voyez des liens entre cette visite et les pourparlers qui sont pour le moment suspendus?
Tout à fait. Je pense que, de toute façon, il y a la contradiction de la politique européenne, c'est que c'est les États-Unis qui les pilotent. Les États-Unis ont provoqué la guerre en Ukraine, continuent de provoquer cette guerre. Les crises énergétiques de l'Europe est une crise qu'on ne peut pas résoudre si on ne trouve pas une alternative au gaz russe pour l'instant. Et bien évidemment, tout le monde regarde vers le Qatar et l'Iran, parce que l'Iran a la capacité aussi d'approvisionner l'Europe d'une façon majeure. Donc je pense que tout ça, ça prend en compte, surtout le rapprochement important entre l'Iran et Qatar. Qatar pense pouvoir jouer un rôle intermédiateur dans la négociation avec les États-Unis. Il faut rappeler, par contre, que pour ce qui concerne le terrorisme, etc., le Qatar a joué un rôle majeur dans la déstabilisation de plusieurs pays. Il ne faut pas oublier que c'est le Qatar, surtout, qui a soutenu la révolte contre Gaddafi en Libye en 2011, et puis aussi la déstabilisation de la Syrie. Maintenant, le Qatar semble avoir changé un peu de cours Ils ont fait la paix, ils ont fait il y a eu des échanges importants avec la Syrie, avec le président Assad, et maintenant surtout avec l'Iran. Et je pense que Qatar aussi se sent un peu menacé par les Occidentaux. J'ai entendu récemment l'émir de Qatar dire qu'il y avait un programme de changement de régime piloté par les États-Unis contre le Qatar. Et donc, je pense qu'ils ont des intérêts communs avec l'Iran. La Turquie aussi est une force majeure dans ce dossier. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de contradictions géopolitiques à considérer ici, du fait que, par exemple, quand on a la politique le Qatar est très très lié à l'OTAN, enfin à la France. Il y a une base, c'est les Français qui forment une grande partie des militaires qataris. Et aussi, le Qatar est bien évidemment très proche des États-Unis et Israël. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Ça ne va pas être facile de se rapprocher trop avec Qatar, mais il faut le faire parce qu'ils partagent ensemble le champ de pince. Donc, ils n'ont pas le choix que de trouver une solution. Et en fait, c'est très positif. Ce qui est en train de se passer actuellement, on peut dire, c'est que dans la région, il y a plusieurs signes positifs de rapprochement entre les pays. Même l'Arabie Saoudite et l'Iran, les relations, je dirais, actuellement sont plus bonnes qu'avant. Donc, il y a plusieurs possibilités de résoudre cette crise de nucléaire. Bien évidemment, c'est pour l'Europe, c'est extrêmement important, surtout pour l'industrie européenne, d'investir en Iran. Pour les Iraniens, en contrepartie, ils ont besoin de développer leur raffinement, le processus de pétrolière. Et donc, c'est gagnant-gagnant. Mais la question, est-ce que les États-Unis vont permettre un accord? Est-ce qu'Israël va essayer de le saboter?
Merci, merci encore, Monsieur Coleman. Monsieur d'Ortiguier, donc, il y a d'innombrables enjeux dans ce rapprochement. Alors, l'Europe se voit confrontée actuellement à une grave crise énergétique en raison de la guerre en Ukraine. Il y a bien sûr cette nécessité de parvenir à un accord sur la relance de l'accord nucléaire de 2015. Oui. Des négociations qui sont actuellement suspendues en raison des tergiversations, en effet, notamment des États-Unis. Dans quelle mesure ce rapprochement pourrait nous offrir une perspective de parvenir à un accord, non seulement pour parler de Vienne, mais aussi et surtout en ce qui concerne cet enjeu énergétique, c'est-à-dire cet approvisionnement en gaz pour les pays européens et, comme vous le savez, le Qatar et l'Iran qui détiennent en effet des réserves importantes du gaz mondial.
Il est certain que un des aspects positifs de la crise que nous connaissons en Europe, je veux dire la crise ukrainienne, c'est là son principal avantage, une tendance à l'indépendance européenne. C'est-à-dire au fait que les Européens veulent, pour des raisons énergétiques bien sûr, mais pour des raisons disons, plus larges encore, non pas se débarrasser des tutelles, mais disons avoir une responsabilité dans les affaires. C'est-à-dire ne pas abandonner aux Anglais et Américains, par exemple, le sort de leur conduite. De même que les pays de l'Est, évidemment, sont très réticents vers la Russie, depuis toujours à cause du communisme. Et bien de même, les pays occidentaux, comme l'Allemagne, etc., elles-mêmes développent véritablement, positivement, une tendance, disons, à l'indépendance. Et c'est pour cela que les conséquences en sont très positives, à moyen terme, je parle pas à long terme, pour l'Iran et pour, disons, l'approvisionnement. Je crois que cette crise n'est pas une crise, disons, aux dimensions aussi terribles qu'on veut le faire entendre, tout au moins pour l'instant, mais qu'elle est un test, disons, je parle de la crise européenne, un test pour justement ce que j'appelle l'indépendance, la volonté d'indépendance des nations. Voyez-vous ? Et je crois que les États-Unis eux-mêmes sont pas unifiées, c'est-à-dire n'ont pas une tendance unique. Il y en a une partie certainement qui, des États, des Américains, qui veut, disons, accorder à l'Europe une certaine autonomie. L'autre, au contraire, qui est dans les mêmes fantasmes, disons, impérialistes, qui ont conduit, du reste, le monde à une division, vous voyez, en 45-47. Je crois que les événements sont, le vent, disons, est favorable à une certaine reprise des communications, des relations avec l'Iran, je le crois. Et l'entité sioniste, elle a plusieurs orchestres, voyez-vous. Elle a un orchestre russe, je le dis ouvertement, elle a un orchestre ukrainien, elle a un orchestre occidental. Disons, c'est un festival de musical mondial. Je m'excuse de parler ainsi, ça n'a rien de comique, mais on peut caricaturer quand même, souvent pour déceler la vérité. Je crois que elle n'aura pas le dernier mot. Elle sème, cette entité sioniste sème la confusion, voyez-vous, au fond que les... elle veut diviser les gens pour régner, voyez-vous. Et nous, nous voulons en Europe, au contraire, disons, nous réunir autour du bon sens, c'est ce que l'Ayatollah Khamenei a relevé, voyez-vous, pour pouvoir justement résoudre d'abord définitivement la question palestinienne sur les bases, les mêmes bases que le président de Gaulle chez nous avait indiqué en 67, voyez-vous, des bases raisonnables. Bon, est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible, et j'insiste sur ce fait, si l'Europe maintient son unité, voyez-vous, si elle est désunie, et justement à cause de la crise actuelle, elle perdra de sa force. Et les conséquences en seront néfastes, justement, à tous les pays d'Orient, y compris à l'Iran. Nous ne pensons pas que ce soit la voie du destin. Nous pensons au contraire que, comme toujours, disons, la justice, la raison, l'emporte sur les illusions et les mensonges.
Merci encore. Il nous reste 3 minutes. Une toute dernière question à M. Colmar. M. Colmar, alors, pour terminer cette émission, alors, j'aimerais bien citer cette phrase du leader de la révolution islamique. Là où le régime sioniste se présente, alors il sème la corruption, la confusion. Est-ce que, cet avertissement, est-ce que ce constat, est-ce que ce rapprochement, cette possibilité de communication, comme disait M. le professeur d'Ortiguier, entre les pays de la région, en l'occurrence l'Iran, le Qatar, pourrait amener les pays, notamment les pays normalisateurs, à une réflexion, voire à une prise de conscience sur le danger de ces relations avec l'entité sioniste et sur l'importance de la cause palestinienne.
Tout à fait. Je pense que la possibilité existe toujours, mais il faut une prise de conscience par les pays arabes, qu'il faut arrêter de s'entretuer, il faut arrêter de se déstabiliser l'un à l'autre. Ils ont passé vraiment trop de temps depuis la Deuxième Guerre mondiale en guerre l'un contre l'autre, et donc il faut s'unifier, il faut un front uni des pays arabes avec l'Iran pour trouver la paix et pour avoir la force pour faire face à l'entité sioniste qui n'a pas seulement une puissance mais une puissance dans l'Occident qui contrôle une grande partie des médias en Occident et du discours, tout ce qui est publié, tout ce qui est même discutable. Les crises au Moyen-Orient et surtout les crises des palestiniennes. Donc je pense que c'est le mot d'ordre vraiment, c'est unification et front uni avec des propositions concrètes pour le processus de paix. C'est tout à fait possible, c'est peut-être plus possible que jamais vu le fait que maintenant Qatar parle avec l'Iran, mais il faut arrêter des guerres par procuration dans la région qui jusqu'ici étaient pilotées d'une grande partie par Qatar. Donc c'est un espoir, c'est une chance. Mais il faut marcher prudemment, il faut aussi être réaliste, parce que pour les accords et surtout de côté qatari, c'est de résoudre le problème de Vienne, le problème de nucléaire. Mais je pense que la sincérité des Qataris vis-à-vis de la cause palestinienne est très très douteuse. Douteux, je dirais. Mais néanmoins, il y a un espoir quand même.
Merci infiniment. Garoldo Colmar, analyste politique depuis Paris. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également M. le professeur Pierre Dortiguier d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
La révolution financière mondiale à venir. Aucun pays n'a réussi à défier l'hégémonie mondiale du dollar américain jusqu'à présent. Comment cela est-il arrivé et qu'est-ce que cela signifie? Les critiques étrangers s'insurgent depuis longtemps contre le privilège exorbitant du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale. Les États-Unis peuvent émettre cette monnaie qui n'est garantie par rien d'autre que la pleine foi et le crédit des États-Unis. Les gouvernements étrangers qui ont besoin de dollars non seulement les acceptent dans le commerce, mais achètent des titres américains avec, finançant ainsi le gouvernement américain et ses guerres étrangères. Mais aucun gouvernement n'a été assez puissant pour rompre cet arrangement jusqu'à présent. Comment cela est-il arrivé et quelles en seront les conséquences pour l'économie américaine et mondiale? Tout d'abord, un peu d'histoire. Le dollar américain a été adopté comme monnaie de réserve mondiale lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, alors que le dollar était encore soutenu par l'or sur les marchés mondiaux. L'accord prévoyait que l'or et le dollar seraient acceptés de manière interchangeable comme réserve mondiale. Les dollars étant remboursables en or sur demande à 35 dollars l'once. Les taux de change des autres monnaies étaient fixés par rapport au dollar. Mais cet accord a été rompu après que la politique canon contre beurre du président Lyndon Johnson a épuisé la cagnotte américaine en finançant la guerre au Vietnam et ses programmes sociaux de la grande société. Le président français Charles de Gaulle, soupçonnant les États-Unis d'être à court d'argent, a échangé une grande partie des dollars français contre de l'or et a menacé d'échanger le reste. D'autres pays ont fait de même ou ont menacé de le faire. En 1971, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or au niveau international, connu sous le nom de « fermeture de la fenêtre de l'or ». Afin d'éviter de vider les réserves d'or des États-Unis. La valeur du dollar s'est alors effondrée par rapport aux autres monnaies sur les marchés mondiaux. Pour le soutenir, Nixon et le secrétaire d'État Henry Kissinger ont conclu un accord avec l'Arabie saoudite et les pays de l'OPEP, selon lequel l'OPEP ne vendrait le pétrole qu'en dollars et que les dollars seraient déposés dans les banques de Wall Street et de la City de Londres. En contrepartie, les États-Unis défendraient militairement les pays de l'OPEP. Une crise pétrolière déclenchée par une brève guerre au Moyen-Orient a effectivement fait quadrupler le prix du pétrole et l'accord de l'OPEP a été finalisé en 1974. L'accord a tenu jusqu'en 2000, lorsque Saddam Hussein l'a rompu en vendant le pétrole irakien en Europe. Le président libyen Muammar Kadhafi a fait de même. Les deux présidents ont été assassinés et leurs pays ont été décimés par la guerre avec les États-Unis. Le chercheur canadien Matthew Erhardt observe. N'oublions pas que l'alliance Soudan-Libye-Égypte, sous la direction combinée de Moubarak, Kadhafi et Bachir, avait entrepris d'établir un nouveau système financier adossé à l'or, en dehors du FMI et de la Banque mondiale, afin de financer un développement à grande échelle en Afrique. Si ce programme n'avait pas été sapé par la destruction de la Libye, sous l'égide de l'OTAN, le dépeçage du Soudan et le changement de régime en Égypte, le monde aurait vu l'émergence d'un bloc régional majeur d'États africains, façonnant leur propre destin, pour la première fois dans l'histoire, en dehors du jeu truqué de la finance contrôlée par les Anglo-Américains. L'ascension du pétro-rouble. Le premier défi lancé par une grande puissance à ce qui était connu sous le nom de pétrodollar a eu lieu en 2022. Dans le mois qui a suivi le début du conflit en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés européens ont imposé de lourdes sanctions financières à la Russie en réponse à l'invasion militaire illégale. Les mesures occidentales comprenaient le gel de près de la moitié des 640 milliards de dollars américains de réserves financières de la Banque centrale russe, l'expulsion de plusieurs des plus grandes banques russes du système de paiement mondial SWIFT, l'imposition de contrôles à l'exportation visant à limiter l'accès de la Russie aux technologies de pointe, la fermeture de leur espace aérien et de leurs ports aux avions et aux navires russes, et l'instauration de sanctions personnelles à l'encontre de hauts fonctionnaires russes et des maniens très en vue. Les Russes, inquiets, se sont précipités pour retirer des roubles de leurs banques et la valeur du rouble a plongé sur les marchés mondiaux, tout comme le dollar américain l'avait fait au début des années 1970. La confiance placée dans le dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, soutenue par la pleine foi et le crédit des États-Unis, a finalement été entièrement brisée. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré dans un discours prononcé le 16 mars que les États-Unis et l'Union européenne avaient manqué à leurs obligations et que le gel des réserves de la Russie marquait la fin de la fiabilité des actifs dits de première classe. Le 23 mars, Poutine a annoncé que le gaz naturel russe serait vendu aux pays inamicaux uniquement en roubles russes, plutôt qu'en euros ou en dollars, comme c'est le cas actuellement. 48 nations sont considérées par la Russie comme inamicales, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Ukraine, la Suisse, la Corée du Sud, Singapour, la Norvège, le Canada et le Japon. Poutine a noté que plus de la moitié de la population mondiale reste amie de la Russie. Les pays qui n'ont pas voté en faveur des sanctions comprennent deux grandes puissances, la Chine et l'Inde, ainsi que le principal producteur de pétrole, le Venezuela, la Turquie et d'autres pays du Sud. Les pays amis, a déclaré Poutine, peuvent désormais acheter à la Russie dans différentes devises. Le 24 mars, le législateur russe Pavel Zavalny a déclaré lors d'une conférence de presse que le gaz pourrait être vendu à l'Occident contre des roubles ou de l'or, et aux pays amis contre la monnaie nationale ou des bitcoins. Les ministres de l'énergie des pays du G7 ont rejeté la demande de Poutine, affirmant qu'elle violait les termes des contrats de gaz qui exigent une vente en euros ou en dollars. Mais le 28 mars, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie n'était pas engagée dans la charité et qu'elle ne fournirait pas de gaz à l'Europe gratuitement. Ce qu'elle ferait si les ventes se faisaient en euros ou en dollars, qu'elle ne peut actuellement pas utiliser dans le commerce. Les sanctions elles-mêmes constituent une violation de l'accord visant à honorer les devises sur les marchés mondiaux. L'économie de la Russie est beaucoup plus petite que celle des États-Unis et de l'Union européenne. Mais la Russie est un fournisseur mondial majeur de produits de base essentiels. Non seulement le pétrole, le gaz naturel et les céréales, mais aussi le bois, les engrais, le nickel, le titane, le palladium, le charbon, l'azote et les métaux des terres rares utilisés dans la production de puces informatiques, de véhicules électriques et d'avions. Le 2 avril, le géant gazier russe Gazprom a officiellement interrompu toutes les livraisons à l'Europe via le gazoduc Yamal-Europ, une artère critique pour l'approvisionnement énergétique européen. Richard Werner, professeur d'économie au Royaume-Uni, qualifie la manœuvre russe d'astucieuse. Une répétition de ce que les États-Unis ont fait dans les années 1970. Pour obtenir des produits russes, les pays inamicaux devront acheter des roubles, ce qui fera grimper la valeur du rouble sur les marchés mondiaux. Tout comme le besoin de pétrodollar a soutenu le dollar américain après 1974. En effet, le 30 mars, le rouble avait déjà atteint le niveau où il se trouvait un mois plus tôt. La semaine prochaine, nous vous présenterons la suite de cette analyse. Merci de votre écoute et au revoir.
Thank you.